midagi nädagi nännake, hibadi kobadi kokku mingu, midagi nädagi nätta tulgu, taevas tulgu sisse mingu, ümmer männa metsa matsa, leiva peale metsa latsa. Laste lõõbus tantsu lüüa, võidja pehmed leiva süüa. Kooreke, midagi nädagi nännake, hibadi kobadi kokku mingu, midagi nädagi nätta tulgu, taevas tulgu sisse mingu, ümmer männa, mitsa, matsa, leiva peale, litsa, latsa. Laste lõõbus tantsu lüüa, võidja pehmed leiva süüa.
Radio SPL 91.8, l'émission Rommelpot, un rendez-vous tous les troisièmes mardis du mois, en compagnie ce soir et en bonne compagnie de Pierre Favreau. Bonsoir et bienvenue sur Radio SPL.
Salut Bruno.
Alors Pierre Favreau, c'est Augustin.
Donc les... Favreau, excuse-moi, mais c'était une blague, c'est Favreau.
Favreau, bah oui, c'est ce que je disais, Favreau. Non, c'est Favreau.
Non, c'est Favreau.
Favreau, bon, désolé, Favreau. Alors je vais dire Pierre comme ça.
Ouais, c'est mieux.
Tu es artisan et tu as une entreprise qui s'appelle Audesten, donc la vieille pierre.
C'est juste.
Il y a longtemps que tu es rentré dans ce corps de métier, dans cet artisanat. Et j'aime bien dire artisanat parce que c'est dans artisanat et artiste.
Et oui, je me suis installé en 2010 pour créer cette activité. Audesten, pendant 2 ans dans une coopérative et puis ensuite en SARL en 2012.
Ton parcours professionnel, dans la logique, et la logique c'est un peu comme la morale, c'est toujours celle des autres, c'était pas vraiment la pierre, c'était pas vraiment le torchis, c'était pas vraiment la maçonnerie, et je vois un beurret.
Non, c'était pas du tout tout ça au tout départ, non.
Alors, t'étais sur les bonnes rails quand même, je crois.
J'étais sur les bonnes rails, ouais, c'était une passion aussi, c'était le chemin de fer, et donc je me suis dirigé vers des études de génie civil pour pouvoir ensuite essayer de travailler dans ce secteur-là.
Et qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, tu as eu envie de prendre une autre direction professionnelle?
Alors, tout d'un coup, je ne dirais pas le mot, ça a été assez graduel. J'ai quand même fait plusieurs années.
Petit
à petit, oui. Ça a mûri lentement et puis au bout d'un moment, il y a eu certains
faits
qui me disaient non, mais il faut vraiment que je fasse quelque chose qui me convienne beaucoup plus.
Ouais. On disait tout à l'heure que tu avais travaillé en Irlande.
C'est vrai.
Et alors, travailler en Irlande, c'est une autre façon de faire les choses, c'est une autre façon de voir le travail.
Travailler.
D'autres personnes aussi, bien sûr.
Bien sûr, ouais, travailler et vivre en Irlande de toute manière, surtout en l'an 2000. Je sors de DUT, j'ai 20 ans, et là-bas, c'est le boom économique, le Celtic Tiger, comme on l'appelait. Donc, il y avait du travail et des sous partout. Et moi, je suis arrivé là-bas comme un gamin et puis j'ai trouvé un petit boulot pour travailler sur la construction du tramway de Dublin.
Et ça s'est bien passé quand même.
Ça s'est très très bien passé, oui. C'était vraiment, comme tu dis, c'est une autre façon de voir les choses. Là-bas, un Irlandais, à l'époque, il disait « c'est pas grave, on le fera demain » ou je pense souvent à un ami de l'époque qui me disait « Mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de virer ?» quand je faisais quelque chose de pas correct. Il y avait vraiment...
T'avais le droit à l'erreur, alors.
Oui, voilà, un droit à l'erreur et beaucoup moins de stress que, par exemple, en France ou en Angleterre, où quand je suis revenu en France, ça m'a fait un petit choc culturel quand même, après 4 ans.
L'accueil par lui-même des Irlandais, sympa ?
Bah, sympa, d'autant plus que quand je suis parti à 20 ans, je voulais être un citoyen irlandais. Je voulais pas qu'on me reconnaisse en tant que Français.
Ah ouais.
J'étais passionné par ce pays et je voulais absolument pas qu'on me distingue comme un étranger. Donc ça les amusait.
Cette passion, elle existe toujours apparemment.
Oui, j'ai encore gardé beaucoup de liens très forts avec ce pays et ses habitants et des très bons amis que je continue à rendre visite.
Sauvegarde du patrimoine, c'est quelque chose d'important pour toi.
Ouais, c'est essentiel, c'est vraiment un de mes fondements, je dirais.
C'est avoir un passé pour l'avenir.
Oui, si on veut mettre des mots, ça pourrait être ça. C'est aussi Le patrimoine, c'est pas que quelque chose qu'on regarde et qu'on visite, c'est aussi des savoir-faire qui font qu'il est arrivé jusqu'à nous, et ces savoir-faire, pour moi, ont un sens, et ils ont un sens que si on les transmet.
On dit souvent que les anciens, entre guillemets, réfléchissaient quand ils construisaient, par rapport aux aléas climatiques, par rapport à la situation géographique d'un bâtiment, d'une maison, il y avait une réflexion.
Il y avait une réflexion. Alors, par les anciens, on entend les anciens qui travaillaient bien. Je pense qu'il y a toujours eu des cochons.
Après, il y a des anciens qui travaillent mal aussi.
Voilà. Mais on se souvient que du meilleur, c'est ça qui est bien. Oui, alors par la force des choses, par exemple, on n'allait pas faire venir des matériaux qui venaient de l'autre bout du pays. Il faut se remettre dans le contexte.
Il y avait des problèmes de transport aussi, il y avait la proximité qui
voilà,
jouait.
Voilà, dans un tombereau à cheval, on met 500 kilos, on ne met pas un semi-remorque avec 50 tonnes dessus. Donc, on prenait les matériaux locaux, et les matériaux locaux étaient issus de nos paysages et en soi avaient de fait une harmonie avec le paysage.
Quand tu rénoves une maison, un bâtiment, d'abord et avant tout, il y a une expertise de la pierre, du torchis, de la structure.
Ouais, bien sûr. Là, je dis toujours attention aux préjugés, attention aux conclusions hâtives. Parce que moi-même, ça m'arrive que j'ai eu des idées sur un projet et au moment de faire le chantier, quand on commence à gratter, nettoyer, gratter les couches, on découvre en cours de route, si on va pas trop vite, si on fait attention, des témoignages qui n'étaient pas visibles le jour du devis. Et on peut ainsi corriger peut-être des fois la finition qui sera rendue pour donner quelque chose d'encore plus authentique.
Chaque chantier, c'est une aventure, c'est une découverte.
Oui, chaque chantier est unique, chaque chantier, d'autant plus que c'est surtout, on va dire, une bonne partie, en tout cas, ce sont des façades. Et la façade, on passe devant, on continue à la voir pendant longtemps, et ça reste, comme tu dis, une petite aventure à chaque fois.
Les personnes qui font restaurer ces habitations sont des personnes qui ont envie de léguer aussi peut-être à leurs enfants ? Qui ont envie d'avoir quelque chose de beau.
Oui, alors je ne sais pas, je pense qu'il y a toutes sortes de... En général, ce sont comme des gens sensibles. Hein. Moi, je n'essaie pas pas de convertir, mais en général, c'est les gens qui viennent vers moi. Parce que maintenant, au bout de 15 ans, on me connaît un peu localement, on va dire, sur certains thèmes. Et on sait que je travaille d'une certaine façon qui est malheureusement un peu rare aujourd'hui.
En quelle façon elle est un peu rare, cette façon de travailler ?
Simplement le fait d'utiliser exclusivement de la chaux, par exemple, ou de pouvoir restituer des finitions qui se faisaient au 18e et qu'aujourd'hui on ne sait plus faire.
Je te propose une première plage musicale. On va partir dans le Berry avec Source.
Impeccable.
C'est la marche de Fontarabier. C'est l'histoire en fait d'une personne qui jouait de la cornemuse avec un ensemble de personnes qui vivaient carrément dans les bois. Pour moi, tu vas voir, cette mélodie est magnifique.
Ça me plaît.
Radio SPL 88, l'émission Rommelpot en compagnie ce soir de Pierre Fauveau. Et là, c'est bien.
C'est bien dit.
Voilà. Comme j'écris comme un cochon, je me suis trompé. J'ai vu sur ton site que c'était précisé maître artisan maçon du patrimoine. Ce, entre guillemets, ce titre, comment tu l'obtiens ?
Ce titre, il est délivré par la chambre de métier. Donc, c'est une démarche volontaire. Et ça, je l'ai fait il y a. Ça devait être 2018, je crois, ou 2019, peut-être. Hein, je sais plus.
C'est une marque de fabrique pour toi ?
Bah, en fait.
Authenticité, je veux dire.
Oui, ça montre un engagement dans quelque chose d'assez concret. C'est-à-dire, par maître, à la chambre de métier. En tant le maître qui enseigne, le maître qui transmet, pas le. On n'est pas dans la. C'est aussi bien la maîtrise d'une technique, mais aussi la maîtrise au sens du maître qui transmet cette technique.
Ouais. C'est facile de donner son savoir-faire aux autres ?
Alors, je pense pas que c'est facile, non.
Je comprends pas, hein.
C'est pas donné à tout le monde. C'est, on doit.
Il faut quoi, de la pédagogie,
il faut de la pédagogie, il faut avoir.
Et puis un retour aussi, certainement, de la personne qui travaille avec toi.
Oui, donc c'est sûr que.
Si t'arrives avec quelqu'un qui est pas motivé, tu vas pas être motivé pour lui apprendre des choses.
Une transmission, c'est avant tout une rencontre. Donc, il faut un. Mon maître de violon, parce que j'ai appris le violon étant plus jeune, c'était Laurent Claes. Et il disait toujours. Un maître a besoin d'un élève et un élève a besoin de son maître pour continuer d'exister.
C'est une vérité.
Voilà, je m'en suis toujours souvenu de cette façon.
Et alors, t'as arrêté le violon ? Non.
Alors là, depuis qu'il y a des enfants, un petit peu, ça revient de temps en temps. Ça va, ça vient. En Irlande, quand j'étais jeune, vers 20-30 ans, là, j'en ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup joué. Et puis là, ça a été un peu la pause, mais c'est pas non plus complètement enterré.
Non, tu l'as pas mis de côté, tu l'as pas mis.
Il est accroché au mur. Voilà. Ah.
Donc, le jour où tu as envie de le décrocher.
Voilà, même pour 5 minutes, ah. C'est pas facile.
Toi, de ton côté, je ressens que tu as envie de construire ton univers.
Peut-être, ouais.
Bon, c'est pas peut-être.
C'est-à-dire c'est que, bah oui, bah, au fond, je voyage quand je suis dans mon ouvrage. Par exemple, cet été, j'étais sur un conduit de cheminée à Saint-Omer, donc ils sont dans des états pitoyables, mais la plupart, ils ont 200, 300 ans. Et certains n'ont pas été touchés, et je me dis, la brique qui est là, elle a été posée par un maçon il y a 200 ans.
Et elle te parle, cette brique ?
Elle dit rien du tout, mais ça me parle au sens. oui, ça me parle. Je me dis, on a extrait cette argile, qui est là depuis des millénaires, on l'a cuite avec du bois ou du charbon qui était là aussi depuis des millions d'années. On a produit cette brique, elle a peut-être servi ailleurs avant d'être sur cette cheminée. Et donc, ça me fait voyager au travers des siècles. Et c'est pour ça, quand j'ai un apprenti, un stagiaire, je lui explique ça pour remettre un peu de poids sur le temps qui passe dans un monde ou une société aujourd'hui où on est un peu plus dans l'instantané.
Ouais, où tout va vite, où il n'y a peut-être pas non plus beaucoup de réflexion.
Et on n'a pas beaucoup l'occasion de réfléchir à ce genre de choses. Et donc, une brique... encore solide, bah je la remaçonne. Je vais pas dire je la jette, ça sera plus facile avec une toute neuve. Ouais.
On va pas dire que tu cherches la difficulté, mais tu cherches l'authenticité.
Je cherche l'authenticité, et puis du coup, cet ensemble, ça, on parle d'écologie, mais c'est un peu du bon sens. C'est tout se marie ensemble et. Changer les briques, il faut toutes les descendre et toutes les remonter. Enfin, c'est beaucoup de. Là, on est plus là-haut. Je les mets toutes de côté, je les remaçonne et elles sont reparties peut-être pour 100, voire peut-être, j'espère, un peu plus.
Et quand tu repasses sur des chantiers où tu as travaillé, tu rejettes un coup d'œil, tu te dis bon, voilà, c'est du bel ouvrage, j'ai réussi.
Ouais, non, j'aime pas trop dire ça parce que je suis plutôt, on va dire, plus humble que vantard. Mais
bah, t'es pas obligé d'être vantard.
Non, je suis content de moi, je suis content. Quand le client est content, je suis content. Et c'est vrai que je suis plutôt heureux de réussir à. Parce que c'était pas gagné sur certaines finitions de 1750 de pouvoir la reproduire. Ça demande en effet un gros effort. Ça veut dire de la volonté, de la persuasion et se dire si, on va refaire ça, je vous assure, c'était comme ça.
T'es obligé de le prouver à tes clients ?
Ben, en fait, quand on gratte les couches de badigeon, des fois il y a 5, 10 couches de badigeon, et ça fait comme un feuillet, en fait, qu'on gratte. C'est un peu de l'archéologie. Hein. Et on trouve derrière, alors que tout le monde disait « Non, mais les finitions, c'était comme ça. » Je dis « Non, mais si on grattait un peu plus, on retrouverait là la petite peinture d'origine avec des traits bien nets, faits à la règle avec un tout petit pinceau. » Et ça, je suis content. Ouais. C'est faire un peu d'archéologie, c'est quelque chose.
Mais tu parles d'archéologie, c'est maîtres maçons par eux-mêmes. Ils signaient leur œuvre. Il y a des signes distinctifs qui permettent de dire non.
Bah, jusqu'à présent,
non. Comment je le trouvais dans les moulins, par exemple.
Ouais, non. Alors, il y a des signatures sur les pierres de taille, par exemple, ou sur, peut-être sur des charpentes. Mais les façades, non, j'ai pas encore rencontré ça.
Comment tes clients viennent te voir? C'est du bouche à oreille? C'est les réseaux sociaux ou...
Non, c'est le bouche à oreille. C'est plus quand on travaille dans une rue, la carte de visite, c'est la façade. Il n'y a pas vraiment besoin de faire beaucoup de pubs. Et comme j'y suis pendant un mois, des fois un mois et demi, des fois le fil en aiguille, quand on déchafaude, qu'on enlève les bâches de protection, les gens, ils sont... Soit ils aiment pas, soit ils aiment bien, mais ceux qui aiment bien, ben ils viennent me voir pour faire un devis. Ouais. Et franchement, quand on travaille les matériaux anciens comme la chaux, c'est pas des travaux qu'on fait en hiver. Donc la saison, elle est assez réduite. Hein. On démarre en mars, on arrête fin octobre. Et si on fait un mois une façade, ben le carnet de commandes, il se remplit vite quand on travaille seul.
Ces carnets de commandes, par eux-mêmes, ils sont compliqués à honorer, puisque aujourd'hui, on s'aperçoit que lorsqu'on recherche... un artisan, parfois, il faut attendre 2, 3, voire 6 mois.
Ouais, bah alors en fait, je le dis tout de suite. Je dis, avant, au moment de faire le devis, je dis, si ça se fait, je vous préviens, ça ne sera pas avant l'été prochain. Quoi. Et donc, là, tout de suite, le client a les clés en main et soit il attend, soit il dit, non, moi, je voulais vraiment faire ça avant. Donc, j'aime pas du tout le terme débordé parce que ça veut dire qu'on n'est plus du tout en maîtrise de son emploi du temps.
Moi je dirais plutôt ordonné.
Bien, ouais, ordonné, hein, en tout cas bien chargé. Mais je l'ai fait un par un, les uns après les autres. Et en général, quand je dis que je serai là en juin 2026, je démarre en juin 2026.
On sait que tu es sur Saint-Omer.
Oui.
C'est une ville qui revit, je trouve.
C'est vrai.
Une ville qui est en train de reprendre l'importance qu'elle avait avec sa jonction entre la Flandre et l'Artois, avec le fait que là-bas, il y avait des gens à l'époque, je vais dire 16-17e siècle, qui parlaient encore le flamand d'ailleurs.
Ouais, j'ai lu un livre passionnant à ce sujet là, de Bernard Donker sur le patrimoine flamand de Saint-Omer. Et je l'ai dévoré en une semaine, ce livre, tellement que c'était mon sujet de prédilection. Et c'était... C'est une ville très importante et qui était un peu, je crois qu'on appelait ça pendant longtemps la belle endormie. Et c'est vrai que là, il y a une volonté quand même de continuer, de faire revivre certaines choses avec des petits événements. Et puis aussi des politiques de réaménagement de certains quartiers, et d'encouragement, voire de subvention à refaire des façades. Et il y a aussi beaucoup de grands monuments qui ont été restaurés. Et c'est vrai que c'est une ville... dans le nord de la France, qui est rare par le fait...
Au sud des pays, enfin, au sud de l'Angleterre.
Ouais, qui a autant, en tout cas, de bâtiments aussi anciens, parce qu'elle a été assez fort heureusement épargnée par les deux guerres mondiales. Ouais.
Bon, quand on voit Saint-Bertin, c'est magnifique, quoi.
Ouais, en effet, ouais. Mais il y a les monuments et chaque maison. Et quand on a vraiment l'œil dessus, on se rend compte que chaque maison a sa propre histoire, sa propre identité, sa propre image.
Comment on peut imaginer, quand on voit aujourd'hui le prix des matériaux, des maisons, qu'on puisse faire, dans le temps passé, des maisons aussi belles, avec de si belles choses, avec du travail d'artisanat? Aujourd'hui, ce serait pratiquement impossible. Financièrement, je parle.
Oui, bien sûr. Bah déjà, y a la ressource en main d'œuvre n'est pas là. La ressource de ces matériaux n'est plus là non plus. Et déjà, écologiquement, ce serait un peu une aberration de recuire autant de briques et d'extraire autant de pierres de carrière locale, parce qu'on les a quand même bien exploré, les filons qu'on avait chez nous. Mais il y a aussi le coût de main d'œuvre qui n'avait... On vivait dans un autre monde, en fait. Et cet été, j'ai lu un livre qui s'appelait Le Dernier Forgeron. Et c'est l'histoire de trois générations de forgerons dans le Berry au tournant du 19e, 20e siècle. Et à un moment donné, je crois que c'est les années 30, ou peut-être, dans ces eaux-là, ou peut-être juste après-guerre, où le forgeron dit à ses clients qui venaient d'habitude lui demander une pièce à faire, il dit « Ouais, mais là, mon apprenti va passer du temps, il faut que je te facture le temps qui passe ». Et ça n'existait pas. On payait à la pièce. On payait pour un fer à cheval. On payait pour quatre fers à cheval. On payait pour ci, on payait pour ça. Non, c'était des prix fixes qui n'avaient pas bougé depuis longtemps. Et les paysans, ils disaient, mais c'est du vol. Le temps, tu l'as gratuit.
Ouais.
Tu vois. Et ça, c'est vrai qu'il y a vraiment eu un...
Il y avait une note rapport au temps.
Voilà. Et c'était la matière qui coûtait cher, pas la main d'œuvre. Et aujourd'hui, ça s'est inversé.
Ouais. On va repartir en musique avec... Back in ball.
Thank you.
RFL 88, l'émission Revolpote en direct et ce soir en compagnie de Pierre Fauveau. Des belles retrouvailles d'ailleurs, puisqu'on va pas cacher nos auditeurs
non.
qu'on se connaît depuis une paire d'années. La relation cliente se fait de quelle façon? Ça devient des amis, c'est des gens qui se confient
Oui, c'est arrivé. Oui, j'ai des clients qui sont devenus vraiment
très bons. J'aime pas trop le terme, mais on va dire matcher, mais bien se passer.
Oui, voilà. Bon, c'est vrai qu'en général, on se rejoint sur un terrain qui commun, où on a s'ils font appel à moi, c'est qu'ils ont une certaine envie, et donc forcément... On a un terrain d'entente de base qui est propice à ce que ça se passe plutôt bien, oui.
C'est plus agréable, tant qu'à faire.
Oui. Moi, j'ai jamais vraiment eu trop de conflits dans ce milieu-là.
Et tant mieux.
Oui. C'est un peu le confort de réussir de pouvoir choisir un peu ses chantiers, on va dire, de savoir un peu où on met les pieds, pas de courir après le travail pour nourrir et... des équipes de bonhommes à tout prix, quoi.
Ouais. J'ai l'impression que Pierre, c'est la liberté, l'autonomie, avant tout.
Ouais, un petit peu, ouais, c'est ça. De toute façon, travailleur indépendant, le terme est plutôt bien...
bien trouvé.
Je pense que c'est des choses que, sûrement, que ma mère a réussi à me transmettre depuis tout petit. L'indépendance, la liberté.
Il y a des choses que tu n'aimais pas quand tu étais petit par exemple, des lotissements, ces constructions à l'horizontale.
Ouais.
C'est aussi ce qui a donné le déclic de lancer Houlsten.
Je ne sais pas si c'est ça qui m'a lancé le déclic, mais en tout cas, ça me conforte dans le fait de maintenir, de sauvegarder, plutôt que de démolir. Moi, quand j'étais un jeune ado à Godoarsveld, et quand je voyais des étalements pavillonnaires là ou ailleurs, de toute façon, il n'y a pas un village de France qui est épargné... Et d'ailleurs, quand je vois les étalements pavillonnaires de l'époque qui me révoltaient et que je les compare à maintenant, je dis, mais en fait, ceux-là, ils étaient moins pires qu'aujourd'hui.
Il y a des choses qui te font sortir de tes gonds lorsque tu te balades dans notre campagne.
Ouais. Alors, je fais souvent une marche hebdomadaire pour le
mental.
Le mental et les lombaires aussi. Et donc je voyage, j'entends une alouette, je passe à travers au milieu d'un petit chemin entouré de haies. Et après, forcément, on retombe sur un développement pavillonnaire ou alors une zone d'activité économique. Et ça, là, oui, ça me fait toujours un peu sortir de mes gonds. Après, j'apprends plus à vivre avec qu'avant. Je sais que ça ne me prenne pas trop à cœur, mais je trouve ça toujours tellement dommage de ne pas changer d'idée de faire du développement économique par construire sur du foncier.
Oui, on peut faire un développement économique, mais de bonne aloi, on va dire.
Ouais, moi j'ai l'impression que c'est franchement une fuite en avant, c'est que pour attirer des entreprises, il faut forcément vendre des terres agricoles pour construire une zone neuve.
Tu crois pas que ça, c'est un peu aussi de l'éphémère?
C'est très éphémère, parce qu'on voit des zones d'activité qui ont 20 ans, qui sont à moitié abandonnées, et qui deviennent des trucs un peu de seconde classe. Et puis ça vieillit d'ailleurs très mal.
Un peu comme le crépi.
C'est ça. Mais après, le truc, c'est que c'est là à jamais. La dalle de béton, ça va être difficile de casser.
Éternité.
Voilà.
On voit que tu as des chantiers quand même assez lourds. Tu te fais entourer parfois
Alors, quand il faut un petit coup de main...
Travailler seul.
Aujourd'hui, je travaille seul, mais c'est pas pour ça que j'aime la solitude. Mais en tout cas, dans le travail, je suis essentiellement seul. Après, j'ai recours à pourquoi pas un peu d'intérimaire ou alors un coup de main d'un autre artisan ou un artisan qui m'envoie un de ses ouvriers. Donc, on se débrouille un peu comme ça.
Ouais. Il y a une bonne entente entre artisans.
Artisans dans ce milieu.
Oui.
Alors, parce que déjà, on est une poignée. Moi je
vous
dis toujours
irréductible flamand
réductible du bâti ancien là-dessus, ouais. Qu'on soit flamand, artésien, on s'entend bien,
ouais, ou même de
n'importe quel autre coin, ouais. Et je dis toujours qu'il y a un secteur, c'est le BTP, et un autre secteur, c'est le bâti ancien. C'est vraiment deux mondes, deux ambiances, deux choses complètement différentes. D'ailleurs, dans le BTP, on écoute de la musique à la con. Et dans le bâti ancien, on écoute Radio Eulen Spiegel, par exemple.
Quel cadeau. Ou Clara.
Ou Clara, oui, c'est vrai.
Une très bonne France Musique flamand belge.
C'est ça, ouais.
C'est très bien.
Très bien, ouais. Et on capte d'ici.
Allez, on. Quand tu m'as dit que tu voulais venir, je comprends mieux aujourd'hui.
Je suis honoré d'être assis ici dans cette salle
partagé,
mythique.
C'est partagé. Trouver des fournisseurs de matériaux, ça doit être compliqué quand même aujourd'hui. Toutes les personnes ne font pas la laine de bois, ne font pas des enduits spéciaux.
Non.
Tu vois où je veux t'amener?
Ouais, bah, un petit peu. Alors moi j'ai la chance, c'est qu'il y a mon fournisseur qui est à Calican, hein, qui était avant à Neuve-Église, Peter Steen, qui
s'est installé. Il n'était pas Newkirk.
À Neuve-Église, Newkirk, ouais. Et donc moi
je suis un chiant.
Quand je me suis installé, il était déjà là, et puis on a tout de suite sympathisé parce que par mon parrain Pascal Azlar qui le connaissait, voilà, j'avais toujours un approvisionnement en chaud. Et en matériaux écologiques assez proche de chez moi, ouais. C'est plutôt une chance.
Et ça, c'est intéressant.
Très intéressant, et puis d'autant plus qu'il s'y connaît. C'est pas non plus, c'est pas un commercial qui va faire n'importe quoi, ouais.
Je pense que lui, c'est vraiment aussi une personne dont tu vas faire un ami, quoi. Une fois que.
C'est ça, ouais. Je suis souvent démarché. Hein, maintenant que la fibre de bois, ça s'est, on va dire, quand même démocratisé. On le trouve. Il y a 15 ans, on le trouvait pas comme ça chez n'importe quel négociant. Et aujourd'hui, je me fais toujours approcher et je dis, mais tu sais, moi, je travaille depuis 15 ans avec Peter et on s'entend bien et puis ça va rester comme ça.
Qu'est-ce que tu penses, toi, de la paillette de lin? Parce que, alors pourquoi je te pose cette question? Parce que j'avais été à une réunion de Iserhook, qu'on peut saluer d'ailleurs, qui font un travail extraordinaire.
Tout à fait.
Ne serait-ce que pour leur chantier, pour les rénovations de chapelle. Et ce jour-là, je ne me rappelle plus le village exactement, ils parlaient de l'isolation par la paillette de lin.
Ouais,
qui d'ailleurs permettait de ne pas avoir de nuisibles, puisque ils peuvent pas faire de nid en fait.
C'est ça. Ouais. Moi j'ai pas suivi, j'ai suivi on va dire de très loin parce qu'on peut pas s'intéresser
on
à tout.
Partout,
on a qu'une semaine pour la remplir. Et oui, je sais que ça existe, tout comme le chanvre. Donc il y a plein de possibilités. Et puis donc on peut faire des blocs isolants ou la. On peut faire de l'isolation en fibre de lin aussi, ou même de l'épandage en vrac, si c'est ça dont tu parlais.
Oui, l'épandage en vrac dans les linteaux, en fait, des planchers.
Dans le gitage. D'autant plus que c'est vraiment, à la base, la paillette de lin, c'est un déchet de la culture du lin. Donc, c'est vraiment super d'arriver à la valoriser
et
localement.
Et c'est impressionnant, parce que je connais très bien, c'est un ami Arnaud Van Robaes de Home Scott. Avant cette paillette de lin, personne n'en voulait.
Non.
Aujourd'hui, on fait de la litière.
Pour chevaux.
On peut faire du paillage pour les jardins.
C'est vrai.
On peut la mélanger au torchis aussi.
Dans les enduits, c'est très bien. De toute façon, le mortier était fibré depuis toujours. Hein. On a l'impression de redécouvrir certaines choses. Mais moi, quand je te disais, on fait un peu d'archéologie. Je trouve les mortiers qui entourent les fenêtres pour pas qu'ils fissurent, parce qu'une fenêtre qui s'ouvre, qui se ferme, ça fait des vibrations. Et le joint entre le dormant de la menuiserie et la maçonnerie, lui, il était fibré de poils. Donc pour empêcher la fissuration qui se casse et qui part en poudre.
Moi, j'avais remarqué dans des vieilles maisons que j'avais vues surtout en Artois, plutôt que de mettre du bois ou de la paille, il y a beaucoup de gens qui mettaient du. Comment ça s'appelle? Tu sais, du grillage à poule.
Ah oui, donc ça a été une solution à une époque, mais qui était une erreur. Parce que, en fait, c'est venu un peu aussi avec les enduits ciment. C'était une sorte de trame pour fibrer et maintenir. C'était une sorte de cache-misère pour. On s'était dit, le torchis et le badigeon, comme ça, on ne devra plus le refaire tous les autant. Le ciment, c'est costaud, mais. Ouais. Le gros problème de cette technique, c'est que le ciment, il est vraiment incompatible avec le bâti ancien. En soi, le bâti ancien a des remontées capillaires, a des migrations de vapeur à travers sa paroi. Et quand cette migration de vapeur arrive contre le ciment, elle condense et elle fait pourrir la structure du bâti. Donc ça, c'était des choses qui sont arrivées après-guerre, après la démocratisation des usines de la production de ciment.
Elle n'a pas fait du mal, cette après-guerre. Alors quand je parle de ça, je pense précisément à l'arrachage des haies, à la culture.
Ben oui, de l'après-guerre, c'est. Après, bon, il fallait reconstruire, il fallait remettre debout un continent.
Ce qui signifie pas, je précise bien, que la libération n'était pas une bonne chose.
Merci de préciser. Non, je comprends. Mais les dommages collatéraux, c'est que le remembrement et le bâtiment, ça a détruit une harmonie des paysages et le charme et la beauté de notre environnement et de ce que notre œil pouvait contempler. Et je suis convaincu que ça joue sur le bonheur psychique des êtres humains, c'est de pouvoir voir des belles choses. Et quand on s'enferme dans du béton, quand on s'enferme au milieu d'une plaine sans un arbre à l'horizon, je pense que ça joue sur le mal-être. En tout cas, moi, ça me touche profondément.
Ouais, on voit bien que le fait d'avoir arraché les haies, il y a aussi une incidence par rapport aux inondations. Je prends un cas typique, c'est Morlaix. Mmh. Où avant, il y avait des haies, et puis aujourd'hui, Morlaix, à chaque coup, c'est inondé parce que tout dévale et il n'y a rien pour l'arrêter.
Ouais. Ça retient les eaux de ruissellement,
ça permet aux oiseaux de nidifier.
Ça maintient de la biodiversité, ça évite les gels ou les assèchements dus au vent, ça conserve ce maillage du bocage, il maintient un microclimat qui rendait les choses plus vivables, en tout cas moins sensibles à des aléas climatiques un peu violents. Moi, je trouve que chacun a sa responsabilité face à ça. C'est comme les gens avec leur façade, je leur dis, vous avez une responsabilité. C'est votre façade au sens, c'est votre maison. Mais les gens qui regardent, c'est aussi à eux, la façade. Le paysage est à tout le monde. Et donc, si chacun fait son petit truc, j'arrache ma haie, je mets un mur en béton ou une haie en plastique, parce que ça, je l'ai vu.
Ouais.
Et je dis, mais ça participe au malheur des autres. Donc, c'est un peu le revers de la propriété privée à tout prix. Moi, je pense que la propriété privée, elle est un peu... On a été un peu trop loin dans ce sens-là. Des fois, dans des documentaires sur les aborigènes ou les Indiens, eux, la propriété, ça n'a pas de sens. Ils disent, eux, appartenir à la nature. C'est vraiment, on a complètement inversé l'ordre des choses.
Ouais. Tes relations avec le bâtiment de France, elles sont bonnes ? Puisque tu dois avoir affaire à eux quand même, je suppose.
Oui, alors j'ai pas vraiment affaire à eux en direct. Disons que mes clients ont affaire à eux parce que quand ils déposent une déclaration préalable de travaux, le dossier est soumis très souvent à Saint-Omer.
À l'approbation
de l'architecte des bâtiments de France. Du fait d'un nombre important de monuments historiques, mais aussi qu'il y a un plan de sauvegarde et de mise en valeur du site patrimoine remarquable. Donc, presque entièrement, qui ne touche pas entièrement Saint-Omer, mais presque. Et donc, l'ABF, l'architecte des bâtiments de France, a son mot à dire pour valider tel ou tel. Mais jusqu'à présent, sur mes chantiers, ça suit plutôt
la philosophie,
oui.
Ouais. Bah comme tu fais du beau, c'est forcé.
Ça me rassure un petit peu, quand même.
Ça va être rassuré. On va repartir en musique, et là, on va partir un peu plus loin.
Okay.
On va repartir en Occitanie, avec une personne qui s'appelle Guillaume Lopez.
di Romagna ogni neghi perché pa' confite di su tres merus de lecturo pazzisca scuper tiene l'utu de pubide la di Romagna ogni neghi perché pa' confite di su tres merus de lecturo pazzisca scuper tiene l'utu da pa' cose ne spas con te invete ha cosi ne te la caria da pa' cose spis tu te de mucca tiepe non mincia la ge da pa' cose ne spas con te invete ha cosi ne te la caria da pa' cose spis tu te de mucca tiepe non mincia la ge Dacă zerbă de vodi tu goe, purică de musi sa bage, hige ras, dacă că siga, ste dar mania per se hica punice, ca un că zerbă de vodi tu goe, purică de musi sa bage, hige ras, dacă că siga, ste dar mania per se hica punice, da pa cose ne spus cu te, bete ha cosi no de la garia, da pa cose spus cu te, de muca te pe nu mingea la ce, da pa cose ne spus cu te, bete ha cosi no de la garia, da pa cose spus cu te, de muca te pe nu mingea la ce.
C'est le cornemuse, c'était aussi une très belle rencontre. Et ce soir, de nouveau, belle rencontre avec Pierre Fauveau, l'entreprise Audesten. On a des principes dans nos entreprises, et ça, c'est important.
Ouais.
Même si c'est plus à la mode. Les principes.
Oui, enfin, les principes qui respectent les héritages, les respectent et qui essaient de les faire perdurer et de les transmettre.
Ouais. Il t'est arrivé de rencontrer des anciens artisans qui t'ont parlé de leur savoir-faire, qui t'ont parlé comment eux, de leur côté, ils voyaient les choses?
Oui, alors mon apprentissage dans l'artisanat, il est diffus. C'est-à-dire que c'est des rencontres ici, à droite, à gauche. Des fois, c'est des rencontres de même pas une heure et... Des fois, c'est des rencontres où je suis allé me former. Par exemple, je suis allé deux fois en Angleterre chez Dr. Gerard Lynch.
Oui, pourquoi tu dis docteur?
Parce que là-bas, en Angleterre, quand on fait un doctorat, ou aux États-Unis d'ailleurs, on prend le titre de docteur. Donc lui, il a écrit des ouvrages assez incroyables sur la maçonnerie et sur d'autres aspects de la préservation du patrimoine anglais. Et c'est quelqu'un de passionnant qui a une carrière assez phénoménale, qui est érudit. Donc pour faire un doctorat, c'est quand même, il faut potasser de la matière. Donc je suis allé deux fois, une semaine, pour me former au joint rubané, qui est une finition, de, on va dire, élitiste des façades en briques.
Alors c'est quoi ce joint rubané?
Alors le joint rubané, c'est rubané. Rubané, c'est-à-dire le rubané au sens, on vient imposer un ruban sur la façade.
Un ruban, quelle matière?
Donc tout ça, bien sûr, c'est avec une base de chaux et de sable. Et l'idée de faire ces façades-là, c'était de faire une illusion d'éléments de maçonnerie parfaits.
Ouais.
Donc ça, c'est vieux. Hein. On trouve cette volonté du temps médiéval ou même romain de maquiller les éléments de construction qui étaient irréguliers et de faire une illusion de rectitude et de planéité.
C'est pour ça qu'on te voit parfois qu'une règle sur les photos qu'on peut trouver sur ton site.
Voilà, c'est ça. Donc le joint rubané, en fait, on vient comme maquiller ou gommer les arêtes des briques en faisant un mortier de la couleur de la brique. Et par-dessus cela, après, on vient à la règle poser un fin ruban de mortier blanc qu'on vient de découper et qui est plus ou moins épais, mais en tout cas plus fin que le joint de mortier de pose. Et ça se fait à la règle et c'est redécoupé. Et on a une illusion de briques calibrées comme on n'arrivait pas à faire encore à l'époque.
Cet ingrédient, entre guillemets, la chaux, c'est vraiment quelque chose d'important pour toi?
C'est dans le
Il y a plusieurs vertus.
Elle a plusieurs vertus dans le bâti ancien. En fait, c'est cohérent avec le reste de la structure. C'est-à-dire que c'est un matériau qui est ouvert à la vapeur d'eau. Donc il ne va pas avoir ces problèmes de condensation et de dureté incompatible avec le reste de la structure. C'est un matériau qui à l'époque était local, c'est-à-dire que la chaux, c'est une pierre calcaire qui est cuite dans les fours qui étaient disséminés dans la campagne ou sur certains gros chantiers qui étaient construits à l'occasion sur site. On utilisait cette matière mais depuis des millénaires.
Et puis, on a continué à l'utiliser. Et il y a un changement aujourd'hui? Tu as l'impression qu'il y a des gens qui reviennent plus à ce genre de produit?
Alors, dans le patrimoine, en tout cas, oui, on est vraiment... la chaux est revenue en force depuis, je vais dire, peut-être une petite vingtaine d'années. Peut-être que je dis des bêtises, mais en tout cas, elle avait vraiment été mise de côté. Moi, je me souviens que mon parrain, il galérait vraiment à trouver de la chaux. Il fallait qu'il aille... je crois qu'il dit au port fluvial à Lille, c'était vraiment quelque chose qu'on ne trouvait pas. Maintenant, notamment chez Peter, je refais la pub. On a de la chaux à tout moment de l'année, autant qu'on veut. Mais je reviens sur le fait que c'était quelque chose de local. Donc c'est pareil pour les sables, ils venaient de petites carrières locales. Et on utilisait ça avec parcimonie, on n'allait pas en gaspiller pas. Si aujourd'hui on disait à quelqu'un du 19e, on fait venir du sable du Rhin ou de la Seine, il n'y croirait pas.
Ouais, ça serait même impossible.
Ouais, ouais.
Ouais. Ces maisons en torchis par elles-mêmes,
oui.
Elles résistent au chaud, elles résistent au froid. Tout ce qu'il faut, c'est une belle couverture pour qu'elles ne soient pas atteintes par l'eau. Parce que ça peut durer des centaines d'années.
Alors moi, j'explique ça aussi... c'est que depuis la nuit des temps, l'être humain, ou même de toute façon les animaux, ils se protègent de la pluie. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on éloigne l'eau. On fait ruisseler l'eau le plus loin possible. Donc, on fait des petites cabanes, des petites tentes. Puis, ça devient des chaumières. On a des traces de chaumières néolithiques. Hein. Donc, pendant des siècles et des siècles et des siècles, cet habitat, cette façon de faire, elle a évolué, bien sûr, mais assez très peu et très, très, très lentement. Et depuis 150 ans, il y a eu une telle métamorphose, un changement aussi brutal qu'on a complètement perdu ces aspects-là. Et donc, c'est des matériaux aussi qui fonctionnaient d'une autre façon. On va dire qu'une maison ancienne...
C'est les matériaux ou les gens qui fonctionnaient de cette façon?
Oui, bon, déjà, c'est sûr qu'on ne passait pas autant de temps chez soi à l'intérieur. C'était pour dormir, s'abriter. Mais une maison ancienne, elle a de l'inertie, c'est-à-dire qu'elle a des matériaux denses et lourds qui fait qu'elle stocke les calories et elle les restitue. Et elle va gérer aussi l'hygrométrie, c'est-à-dire que des matériaux biosourcés, le chanvre, le lin, et puis tout ce qui est lié à la terre et à la chaux, régule beaucoup plus l'atmosphère dans une maison que si on était dans une boîte en polystyrène, par exemple.
Ouais.
Comme je vois quand je traverse des villages qui deviennent complètement défigurés parce qu'on a mis du lambris et du polystyrène sur toutes les façades et que ça ne ressemble plus à rien du tout.
Ouais. Comme je te disais tout à l'heure, je parlais du crépi, c'est une ineptie aussi de mettre du crépi ici.
Ouais, voilà, c'était,
alors après, c'était une grande mode dans les années 70.
C'est des solutions un peu de facilité, c'est sûr que ça demandait une
qualité. C'est pas du cache-misère, ça?
Un peu, oui, parce qu'en plus...
Et en disant ça, je pense à un produit... Et...
Ça crée de la misère même, parce ouais. que ça, avec du bâti ancien, ça crée des désordres de moisie et de condensation qui sont problématiques.
Parce qu'il y a des gens qui arrivent parfois dans des maisons, et puis bien, le truc le plus rapide à faire, c'est mettre du placo. Et... entre guillemets, je m'excuse, je vais être un peu grossier, derrière, c'est de la merde.
Ben, on ne voit plus ce qui se passe derrière, ça, non. C'est sûr. Et en fait, quand on enduit son mur, quand on a des murs de maçonnerie épais et qu'on les enduit à la terre ou alors même avec ce qu'on appelle des enduits correctifs, c'est-à-dire des enduits avec du chanvre ou des choses comme ça, assez épais, on arrive à corriger le ressenti dans une pièce. Et donc, quand je disais... une pièce à 19 degrés dans du polystyrène et une pièce à 19 degrés dans une maison avec des enduits terre, il y en a une où on va se mettre en pull, on sera bien, l'autre on va être un peu froid, pas désagréable quoi. Donc c'est aussi le ressenti de la matière.
T'en penses quoi toi de la grande mode en ce moment des maisons en bois?
La grande mode, je sais pas, en tout cas bon, c'est une façon de construire. Moi, je suis pas dans la logique de la construction. Je suis dans la restauration.
Dans la rénovation.
Et la maison en bois que je restaure, elle, c'est des maisons en poutre en orme.
C'est du béton
ou en chêne. Voilà, c'est des choses qui durent, qui traversent les siècles.
Ouais.
Si on s'en occupe et qu'on les maintient en bon état, voilà.
Ouais.
Il faut faire attention aux choses.
À toutes les choses. C'est important. On va partir en musique avec la cuivraille. Le temps passe très très vite.
Et oui.
Redonne un peu ta situation géographique pour les gens qui voudraient te rencontrer, parce que ce soir tu nous as passionné avec tout l'amour.
Merci.
Que tu as pour la construction, pour le renouveau, pour la pérennité aussi.
C'est ça. Donc mon entreprise s'appelle Oudesteins. En flamand, ça veut dire les vieilles pierres. C'était pour marier patrimoine.
Rien à voir avec ton prénom.
Matériel, non. Patrimoine matériel et patrimoine immatériel. Parce que la culture et la langue flamande me tiennent à cœur aussi. Et on me trouve à Saint-Omer. J'ai un site, c'est oudesteins.fr avec 2D et 2E. Et sur ce site, il y a un formulaire de contact. N'hésitez pas à m'envoyer un email, j'y répondrai.
D'accord, tu parles d'envoyer un email, mais je crois aussi que tu voudrais saluer deux personnes que tu adores.
Voilà. Les deux personnes que j'adore, c'est mes deux grands garçons, Nino et Clément Fauveau. Et je leur fais des gros bisous.
Voilà. Et moi, je fais un clin d'œil à ta mère que je connais bien. Je remercie Maric pour la technique. Comme d'habitude, super. C'est bien. Voilà. On
Merci.
Vous guide. Et surtout, on vous guide, mais restez à l'écoute de Radio Espiral 91.8, Radio Territoire, Radio Flamande, Radio Folk. Et unique.